Bonjour, bienvenue à ce café littéraire donc, qui a pour thème l'Afrique, le Japon, le Vietnam, on va dire aussi le Moyen-Orient, l'exotisme en général et en littérature en particulier. Donc je vous présente nos invités pour ce café. Donc à ma gauche, Loris Muraille, donc, qui est écrivain autant pour la jeunesse que pour les adultes, qui a écrit de nombreux romans. Là, il va être question surtout d'une série, en fait, d'une trilogie qui s'appelle « Les cornes d'ivoire », dont les titres ont changé d'ailleurs depuis la première parution, qui est donc disponible là chez Pocket. À ses côtés, Mathieu Rivero, donc jeune auteur qui a commencé par écrire des nouvelles, qui a écrit un roman très science-fictif et qui revient avec un roman de fantasy qui s'appelle « Or et nuit » à la façon des mille et une nuits, on va voir comment. Jérôme Noirez, qui a aussi écrit de nombreux romans pour adolescents ou pour adultes. Son dernier roman publié s'appelle « Brainless ». Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont ces romans policiers qui se passent dans le Japon reculé. En fait, une série qui met en scène un officier qui s'appelle Ryosaku. Et puis, à ses côtés, Tan Van Tran Nhut, qui est d'origine vietnamienne, même si elle a grandi dans d'autres pays, et qui met en scène dans une série policière un enquêteur dans le Vietnam du XVIIe siècle. Alors, pour commencer, une question un peu générale, ma foi, en commençant par Jérôme Noirez. Donc, vous, qu'est-ce qui vous a amené à écrire un roman sur le Japon du XVe siècle ?
Le manque d'argent. Non, la passion pour le Japon, je l'ai depuis fort longtemps. Alors, c'est-à-dire, moi, j'ai des passions pour des cultures qu'on va qualifier d'exotiques, vu de chez nous, le terme est épouvantable. Par contre, j'ai une grande difficulté, c'est que je déteste être en posture de touriste. Et ma détestation de la posture de touriste, de la condition de touriste, fait que j'écris... Je voyage via les livres où je me sens moins touriste. Et donc, ça m'a permis de visiter de manière sereine le Japon, mentalement, l'écriture de ces livres. Alors après, je les ai situés effectivement précisément à la fin du XVe siècle, puisqu'il s'agit quand même de romans avec une documentation historique et avec... Je l'ai fait parce que c'est une époque, autant on connaît l'époque Sengoku, donc le 16e siècle, on connaît après toute l'époque d'Edo, autant c'est une époque qui est peu traitée dans la littérature et dans le cinéma japonais. C'est une époque, c'est l'époque pré-samouraï en quelque sorte, ou proto-samouraï, voilà.
Vous êtes allé au Japon autrement que...
Non. La condition de touche, comme je dis, c'est au-dessus de mes forces d'être touriste. Voilà. Donc, soit je m'installe dans un pays pour des années, soit je n'y vais pas. Et comme je n'ai pas de pognon, j'y vais pas.
Et donc, la date du XVe siècle, elle aussi était importante.
Oui, elle était importante, comme je disais, parce que c'est une époque qui avait été peu exploitée, y compris par la littérature et le cinéma japonais, le genre film Shambara, film de cap et d'épée, de samouraï, qui se situe dans des époques en général postérieures. Voilà. Et c'est une époque très intéressante parce que c'est une époque de fracture culturelle très intense. Qui prépare la période dite Sengoku où on s'entretue joyeusement, qui est la période la plus connue, qui est vraiment celle des petits royaumes qui se combattent parce qu'il n'y a plus de structure politique. Là, c'est la dissipation de la structure politique pendant cette période-là qui est très intéressante. Et puis un décor qui est Kyoto, qui est une ville absolument gigantesque par rapport à nos critères occidentaux, être une des villes les plus peuplées au monde à cette époque et qui est dévastée par les incendies. Bon, ça, les Japonais gèrent très bien les incendies, ils ont l'habitude. Mais cette dévastation, par faute de moyens, aussi ils sont fauchés à cette époque-là, persiste pendant des décennies. C'est-à-dire que les gens vont vivre dans une ville qui est en grande partie en cendres pendant des décennies. Et c'est un décor de fête romanesque super. Voilà.
Tan Van Tranhut, le choix du XVIIe siècle, c'est important. Pourquoi vous avez choisi cette période-là en particulier ?
Eh bien, parce que le XVIIe siècle était un siècle de toutes les crises pour le pays. Au XVIIe siècle, le pays s'appelle non pas Vietnam, mais Dai Viet. Et à sa tête, on avait un empereur qui n'était pas le monarque absolu qu'il aurait dû être. Donc, en tant que fils du ciel, il aurait dû régner d'une poigne de fer. Mais en réalité, le pouvoir était disputé âprement par deux grandes familles. Une famille de seigneurs au nord qui s'appelle les Trinh et une famille de seigneurs au sud qui s'appelle les Nguyen. Et donc, cette dissension politique va entraîner une guerre civile. Donc, il y a une crise politique très intense au XVIIe siècle. À cette crise politique s'ajoute une crise économique, puisque le XVIIe siècle a vu la naissance de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, qui va lâcher sur les mers d'Asie une flotte puissamment armée pour commercer avec les pays de la région, notamment avec l'Indonésie, parce qu'ils souhaitaient régner sur le commerce des épices. Alors, ils échangeaient la soie du Dai Viet contre l'argent du Japon. Ce métal argent, ils achetaient des textiles indiens qu'ils revendaient ensuite aux Indonésiens pour leurs épices. Donc il y avait un commerce très florissant et très compétitif parce qu'il y avait non seulement ces Hollandais, mais également des Portugais et des Espagnols sur place. Et malgré ce commerce florissant, les petits producteurs locaux n'en tiraient pas grand profit, puisque les mandarins, c'est-à-dire les officiers de l'Empire, qui étaient corrompus à cette époque, s'inséraient dans la boucle et prenaient une grosse part dans les transactions. Donc il y a cette crise économique doublée d'une crise sociale. Et puis, dernier volet de crise, c'est une crise religieuse, puisque derrière les commerçants hollandais, portugais, espagnols, arrivent aussi des missionnaires. Et les missionnaires sont déjà en place en Chine avec Matteo Ricci, mais quand ils prennent plus de pouvoir, eh bien, ils vont regarder vers le sud, et le sud, c'est quoi ? C'est le Dai Viet. Et donc, on va s'apercevoir qu'il y aura une introduction d'une nouvelle religion qui va concurrencer les trois courants qui coexistaient paisiblement jusqu'alors. Donc, d'abord, le confucianisme, donc basé sur les écrits de Confucius, qui dit que l'homme n'est pas considéré comme un individu, mais se définit par rapport à ses pairs. C'est-à-dire qu'il doit respecter ses parents, ses professeurs, ses maîtres, et tout en haut, donc, l'empereur. Puis il y a le taoïsme qui dit l'inverse, que l'homme est au centre de l'univers, en fait, quasiment. Et puis le bouddhisme. Donc tout ça, ça coexistait de façon très paisible, parce que le Viet était tout ça à la fois. Donc chez lui, il avait un hôtel pour vénérer ses ancêtres, mais ça n'empêchait pas d'aller au temple taoïste pour demander des faveurs à la déesse de la fortune. Et puis le soir, s'il avait un peu de temps, eh bien, il va se prosterner devant Bouddha. Donc, aucun problème. Donc, avec l'arrivée du christianisme, eh bien, on voit donc une arrivée d'une religion monothéiste et exclusive. Donc, pour tout ça, pour toutes ces raisons, c'est politique, sociale, religieuse, enfin, toutes ces crises font que le XVIIe siècle, c'était une mine d'or pour un écrivain de romans policiers. C'est une époque explosive. Voilà.
Loris Murray, vous affranchissez en fait des contraintes temporelles en choisissant l'Uchronie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'Uchronie dans votre série ? Quelle est-elle ?
Oui, comme je partage avec Jérôme le goût des voyages, j'ai résolu le problème en inventant une Afrique où de toute façon je ne pourrais pas me rendre parce qu'elle n'a jamais existé. Donc le principe uchronique, pour Je pense que dans un endroit comme les Imaginales, tout le monde connaît ce que c'est, mais il s'agit de modifier le passé tel que nous le connaissons. En l'occurrence, je voulais traiter de l'histoire de l'esclavage et je l'ai inversé. J'ai inversé les flux, c'est-à-dire que j'ai imaginé que l'Europe s'effondrait, en prenant par exemple comme cause les grandes épidémies de peste qui ont de fait ravagé de grandes portions de l'Europe à certaines époques et qui auraient pu, en mettant le curseur un petit peu plus loin, nous ramener tel que dans mon roman, une sorte de sauvagerie, hein, puisque certaines régions ont vu 50% de la population disparaître quand même. Hein. Et donc j'imagine ça d'un côté, et de l'autre, que j'envisage que l'Afrique, qui a échappé à la colonisation, émerge doucement, et je la prends à un stade qui est l'équivalent du milieu du 19e siècle, ce qu'on appelle civilisation de la vapeur et de l'électricité. Et les Africains font ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'ils envoient des navires vers le nord, ils découvrent les terres du septentrion, comme ils les appellent, ils créent des comptoirs, ils s'aventurent plus ou moins dans le pays parce que c'est pas très prudent. Malgré tout, ils ont quelques archéologues qui vont mettre au jour des ruines, de châteaux, de cathédrales, de choses. Ce qui montre qu'il y a eu une civilisation avant. Ils exploitent la main-d'œuvre locale, notamment pour faire une chose qu'ils apprécient beaucoup, parce que la vigne donne un produit, le vin de raisin, qui est quand même meilleur que le vin de palme, on peut le dire. Donc je pars de là, et cette série de trois romans raconte l'histoire d'une jeune fille blanche qui est esclave dans une plantation au Sounougal, l'équivalent donc du Sénégal, et qui rêve évidemment, comme tous les esclaves, de liberté, et qui est méprisée, maltraitée, comme tout est inversé. Après, j'ai systématiquement tout inversé. Elle va par exemple rencontrer à un moment donné un noir un peu plus évolué que les autres, à l'esprit un peu plus ouvert, disons, qui collectionne l'art blanc, qui s'intéresse à ce qui s'est passé chez nous. Grâce à lui, elle va découvrir qu'il y a eu une culture. Elle va découvrir aussi quelles étranges coutumes existaient au septentrion, parce que les blancs, figurez-vous, prétendaient manger leur dieu, boire le sang de leur dieu. Et il y a même des images terribles où on voit qu'ils l'ont cloué sur une croix. Donc c'était quand même des barbares, hein, ces blancs. Et tout est inversé comme ça. Dans les trois volumes. Par exemple, dans le deuxième volume, les morts, les Arabes, attaquent le pays, le Sénégal, et on va enrôler à tour de bras les blancs du septentrion pour défendre la patrie. Voilà. Tout est systématisé comme ça.
Mathieu Rivero, donc vous avez, comme je l'ai dit, choisi d'écrire une suite aux Mille et Une Nuits. Alors, est-ce que ça se passe à une époque particulière, les Mille et Une Nuits ? Est-ce qu'il y a un contexte historique ou et pourquoi avoir choisi d'écrire cette suite ? Si vous pouvez attraper le micro là-bas. Merci.
Alors, le pourquoi est très très simple, je peux vous dire. C'est parce que j'avais envie de la lire. c'est un plaisir de lecteur qu'on se fait. Et après, quant à l'historicité des Mille et Une Nuits, en fait, bon, c'est un texte. Les Mille et Une Nuits elles-mêmes sont un texte qui est passé d'un espèce de manuel d'éducation pour les jeunes nobles indiens. Ça s'appelait Le Miroir des Princes. Et ça date d'il y a très longtemps. On ne sait pas exactement quand. J'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas trouvé de date concluante. Mais c'est très ancien, ça date vraiment des premières dynasties ourdoues. Et après, en fait, ça s'est transmis à d'autres, à des nobles un peu mineurs, et puis ça a fini par atteindre les oreilles de conteurs qui ont commencé à répéter l'histoire. Donc cette histoire écrite à la base est devenue une tradition orale, puis a été retranscrite, puis découverte par Antoine Galland et traduite en français. Du coup, en fait, c'est un espace, un espace-temps un peu bizarre, puisque on estime, qu'est-ce que c'est l'Orient, qu'est-ce que... Bon, ici, dans Les Mille et Une Nuits comme dans Rénuit, je ne me suis pas attaché à avoir un vocable ou à déterminer de manière précise la temporalité du récit, mais c'est plutôt... Je me suis limité au XIIIe siècle, on va dire. Mais il y a quelque chose que Jérôme disait de très intéressant, c'est que finalement, cette détestation du voyage, est-ce que c'est parce que tu honnis cette envie d'exotisme, ce besoin de... Tu parlais de, justement de l'exotisme, de l'étrangeté à tout prix. Est-ce que c'est ça qui te... Est-ce que c'est ça qui te dérange?
Non, parce que ça, je trouve ça légitime. Je trouve ça très humain, le désir d'altérité. Ça encore, c'est un bon moteur. La posture du touriste, c'est de ne pas être à sa place. C'est-à-dire, moi, je ruse, y compris en France. C'est-à-dire, quand je suis dans une ville, bon, je ne suis pas du tout d'Épinal, j'habite loin d'ici. Bon, je suis déjà venu, alors j'ai une vague idée quand même de la géographie de cette ville et des coutumes particulières, barbares, mais après tout légitimes, acceptables. Je fais comme si. Je fais comme si j'avais toujours habité ici. Je marche comme un habitant de cette ville. Je ne regarde un plan. Je suis humilié si je regarde un plan. Je fais comme si. Et donc, je me paume, évidemment. Mais je continue. Je peux marcher des heures dans une ville et ne pas demander mon chemin parce que je ne veux pas passer pour... C'est pas un étranger, d'ailleurs. C'est pas le bon mot. Mais pour quelqu'un qui n'est pas à sa place. Parce qu'en fait, fondamentalement, je ne comprends pas pourquoi on se déplace.
Paris, c'est un écosystème un peu différent. On a besoin de...
on est rapidement perdu.
C'est acceptable. Je suis d'accord, mais ce sont des cas particuliers quand même. La connaissance intime du métro, de choses comme ça.
C'est sûr qu'en Australie, dans le bush, il n'y a pas besoin de plans. Il y a des kangourous et du buisson.
Oui, vos romans nous rapprochent quand même beaucoup donc de ces civilisations qui peuvent nous sembler étrangères, parfois étranges. Et vous avez donc choisi une suite. Alors, est-ce que, d'un point de vue littéraire, une suite, ça a des contraintes? Parce que, bon, l'histoire de Scheherazade qui raconte des histoires chaque soir pour sauver sa tête.
Donc, oui, ça a des contraintes. Alors, j'ai pas conçu, c'était pas l'idée première d'écrire une suite au milieu de nuit. Ce que je voulais, c'était une fantaisie qui se passe vaguement quelque part dans le Moyen-Orient. Même, il n'y a pas de carte, c'est un Moyen-Orient fictif. On peut assigner des lieux géographiques. Par exemple, je parle très vite du Pradesh, je parle très vite aussi de Babylone, on sait à peu près où c'est. Une ville ici s'appelle Yazad. Il y a une ville dans le Moyen-Orient qui s'appelle Yazad, dans laquelle d'ailleurs il y a des conflits religieux en ce moment. Donc on peut très bien chercher l'exactitude historique, mais finalement le plaisir d'auteur aussi, c'est d'imaginer. On a envie de vivre ces histoires, de les faire vivre. Et pour Les Mille et Une Nuits, donc c'est un roman. Certes, c'est une suite, mais c'est pas un conte. C'est vraiment un roman avec une forme romanesque. Et du coup, Scheherazade est arrivé un peu sur le tard, en cours de re-rédaction, parce que je l'ai réécrit. Et du coup, elle est arrivée, elle s'est installée, elle a un peu dicté beaucoup de choses. Elle a conduit à beaucoup de modifications. Et effectivement, ça a des incidences sur le ton qu'on va employer, on va faire attention aux métaphores. Est-ce qu'on est juste dans tel symbole? Et le jour où je me suis dit que ça avait marché, c'est quand j'ai regardé un film libanais dont je ne me souviens plus du titre, qui parle d'un village qui est très triste parce qu'il y a eu un drame familial et que quelqu'un est mort et qu'on ne voulait pas voir sa mort, donc on a jeté le cadavre dans le puits et tout le monde était triste. L'eau rendait les gens tristes. Et donc, j'ai quelque chose avec un cadavre dans un puits. Et ça marchait bien. Je me suis dit, ah, c'est que j'ai touché un symbole qui existe déjà ailleurs.
Un japonais.
Et oui. Vous avez choisi, en fait, de refaire raconter à Scheherazade encore une histoire pour sauver sa tête. Elle est prisonnière.
Alors, oui. En gros, Scheherazade, après, dans les mille et une nuits, va essayer de sauver sa peau. En fait, elle essaye de sauver sa sœur au début. Parce que le sultan veut se marier avec des nobles, certes, mais jeune, c'est mieux. Et parce qu'il est fou, parce qu'on l'a coquifié, en gros. Et Scheherazade veut sauver la tête de sa sœur, qui est la dernière. Bon, c'est la fille du vizir, donc le vizir, il a mis ses filles de côté, mais il n'y a plus de nobles, donc il ne reste plus qu'elle. Et Scheherazade se substitue à sa sœur. Elle raconte ses histoires pour tromper la jalousie du sultan. Et au bout d'un moment, le sultan il décide que l'amour qu'il a créé pour Scheherazade est plus fort que sa jalousie. Et il décide d'arrêter de la tuer. Et donc, je pars de ce principe-là. Et après, elle n'aime pas son mari, quand même. Même s'ils ont des enfants, même si elle a envie de voir autre chose. Et elle se balade. Et elle découvre d'autres cours, d'autres nobles. Elle se fait conteuse itinérante, donc elle va aussi compter dans des petits villages. Et elle se fait capturer par un bandit, et le cauchemar recommence. Donc c'est un schéma qui reprend. Sauf que là, elle va raconter au bandit non pas une fable, mais une histoire qu'elle a vécue. Et c'est l'histoire d'un sultan qui a un passif lourd, et parce que un de ses ancêtres a trahi un puissant dragon, a bu son sang, mais le dragon a eu le temps de maudire toutes les générations de ce sultan. Et du coup, ce personnage va lutter, va découvrir le pouvoir et va lutter contre le passé aussi. Donc, Scheherazade, de son côté, lutte contre le passé. Et le personnage de son récit lutte lui aussi contre le passé.
Jérôme Noirez, est-ce que écrire un roman sur le Japon du XVe siècle, ça a des contraintes aussi
Mon Dieu, oui. D'épouvantables contraintes, oui, évidemment. Parce que à partir du moment là où on situe temporellement l'action, on est contraint à une certaine précision historique, voire même à une précision maniaque, parce qu'il y a des lecteurs qui sont eux-mêmes de terrifiants maniaques et qui ne vous pardonneront pas l'infime erreur, le détail, etc. Alors, autant j'ai pris des libertés sur le premier tome où j'étais un peu chambara, quoi, donc KPDP, un petit peu flamboyant. Voilà. Autant le deuxième tome, je me suis dit, là, je vais être d'une précision redoutable, et j'ai souffert de longs mois, et plus jamais je n'écrirai un roman historique dans une époque et une culture aussi, en plus aussi mal documentée en langue anglaise ou française, qui sont les deux seules langues que je peux lire. Et c'est terrible, quoi. C'est une période très peu documentée, là, cette fin du XVe siècle.
C'est pas un plaisir pour vous, la recherche documentaire
Au départ, c'était un plaisir, et puis après, c'est devenu une souffrance. Mais la souffrance, le plaisir, tout ça, quoi.
Et ça vous importe, en fait, l'avis de vos lecteurs sur cette précision-là? Pour vous, c'est important, en fait
L'avis de mes lecteurs... C'est une maniaquerie très personnelle, en fait. Oh, mais si tu tombes sur des... Ah ouais, c'est terrible. Oui, tu tombes sur des lecteurs qui sont extrêmement... qui sont remarquablement cultivés dans des domaines très précis. Et évidemment, comme un écrivain est obligé d'englober un tas de domaines... et tu tombes dans des ornières, des pièges, toujours. Non, mais c'est important pour moi, c'est-à-dire que si j'écris un roman qui se prétend. Je déteste l'expression de roman historique, c'est horripilant pour moi, parce que ça renvoie une espèce à l'histoire romancée, vous savez, et ça, c'est un genre moi, que j'aime pas du tout. C'est juste une histoire qui se situe dans une époque passée. Voilà.
Tan Van Tranut, vous écrivez en fait sur une culture qui est la vôtre et pour un public dont ce n'est pas la culture. Alors, est-ce que vous avez justement des contraintes aussi particulières pour faire connaître cette époque et cette culture à des gens qui ne la connaissent pas? Est-ce que vous imposez des choses
Déjà, au départ, je la connaissais assez mal parce que je suis partie du Vietnam à l'âge de 6 ans. Donc, tout ce que je connaissais, c'était... des souvenirs d'enfance, des légendes racontées par mes parents. Et quand il a fallu écrire ces romans, ce n'était même pas moi qui ai choisi d'écrire les romans. Je suis arrivée à l'écriture tout à fait par hasard, par erreur, parce que j'ai une sœur et elle avait envie d'écrire. Donc, en réalité, nous ne sommes pas du tout historiennes, nous sommes des scientifiques. Elle est physicienne, moi je suis ingénieure en mécanique. Et un jour, elle a peut-être donné... de mauvaises notes en physique à ses copies. Enfin, toujours est-il qu'elle m'a appelée en disant « Je voudrais écrire avec toi un roman policier ». Et donc, on a choisi le Vietnam du XVIIe siècle. Mais c'était complètement nouveau. Donc, qui dit nouveau, dit recherche. Et comme nous étions des scientifiques, bon, c'était relativement facile, entre guillemets, parce qu'on avait déjà toute la méthodologie. Et contrairement à Jérôme, j'ai trouvé plutôt du plaisir à creuser un peu cette époque que je ne connaissais pas parce qu'elle s'est avérée très riche. Et quand il a fallu restituer ça au lecteur, c'est vrai qu'on doit se mettre à la place du lecteur pour qu'il ne soit pas... Il ne vient pas pour lire un traité d'histoire. Donc il faut intégrer... toute la richesse qu'on a découverte de façon, disons, convenable, assimilable. Et en fait, ce n'était pas très, très difficile parce que la culture viet, bon, elle intègre la cuisine, donc tout le monde sait ce que c'est que bien manger. Hein, et avec... La cuisine viet ou chinoise, on arrive à dépayser le lecteur tout en le faisant saliver, hein, parce qu'il y a...
Il y a des trucs effrayants quand même. Voilà,
des pavés de sans-cahier. Bon, c'est vrai que ça rebute un peu, mais bon, ça fait partie de la vraie vie.
Les poussins dans l'œuf.
Oui, c'est vrai, mais c'est très nourrissant. Voilà. Mais bon, le mandarin lui-même, bon, qui est le héros, ne le mange pas, mais c'est un docteur un peu excentrique qui avale tout ça. Donc on arrive à voir la nourriture vraie hein, à travers ce personnage. Puis il y a aussi les légendes du Vietnam qui sont très qui foisonnent en fait de ghouls, de fantômes de jeunes filles qui sont mortes avant d'avoir connu l'amour et donc qui reviennent pour séduire un lettré, un puceau. Donc des histoires comme ça, bon, ça donne chair en fait aux croyances des Viettes. Et cette population de spectres qui reviennent en fait, ça permet aussi d'aborder le pan religieux, puisque toutes les fêtes religieuses sont basées sur des légendes, bon, par exemple la fête des âmes errantes qu'on célèbre parce que il y a des gens qui sont morts sans sépulture ou qui ont été démembrés, décapités et qui n'ont pas donc droit à une vie dans l'au-delà confortable, eh bien, pendant ce jour-là, on prépare de la nourriture pour eux, pour qu'ils reviennent, et on leur propose des vêtements qu'on brûle, par exemple. C'était dans le temps. Hein. Maintenant, pendant cette fête-là, on brûle des télés, des voitures en carton. Hein. Voilà. Mais bon, ça permet de voir un peu la mentalité des Viettes. Hein. Et puis dernier point enfin, qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'est la partie historique politique parce que le XVIIe siècle n'est pas seulement la crise dont je vous ai parlé hein, avec la religion et puis la crise politique et sociale, c'est aussi le point de départ.
Ah non.
c'est reparti. Voilà. C'est le XVIIe siècle qui permet aussi de comprendre tous les conflits du XXe siècle que vous avez sûrement connus et que moi j'ai vraiment personnellement connu enfant. Donc moi je suis née pendant la guerre du Vietnam contre les Américains Et donc, je savais que le pays était occupé par des gens qui, bon, qui n'étaient pas de là et qui n'avaient rien à faire là. Et donc, quand la guerre s'est achevée en 1975, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait un passé. Et pour comprendre ce passé, il fallait se poser certaines questions. Donc, que faisaient les Américains là? Donc, les Américains étaient venus parce que les Français étaient partis. Ils étaient partis parce qu'ils avaient perdu la guerre d'Indochine à Dien Bien Phu en 1954. Et donc, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils étaient là parce qu'ils avaient colonisé le pays. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient colonisé le pays? Et parce qu'ils étaient tellement loin de leur pays d'origine. Et donc, en remontant comme ça le cours de l'histoire, je me suis rendu compte que les Français avaient été appelés par l'un des deux seigneurs dont je vous ai parlé. Donc, il y avait le conflit entre le nord, les Trin, et puis le sud, les seigneurs Nguyen. Et donc, les seigneurs Nguyen avaient fait appel pour gagner la guerre civile contre le nord. Ils avaient fait appel aux Français qui sont arrivés, qui l'ont aidé à gagner cette guerre civile. Du coup, il a dû les remercier et donc ils se sont implantés dans le pays, d'où la colonisation. Mais c'est en cheminant de façon inverse, en fait, au cours du temps, que je me suis rendu compte que le XVIIe siècle, c'était vraiment le noyau et c'était cette époque-là qu'il me fallait traiter.
Alors, pour en venir au légendaire Mathieu Rivero, il y a donc cet épisode dont vous parliez tout à l'heure avec le puits. Donc on a deux rois, le roi de Babylone et le roi de Yazad, qui sont deux jeunes gens et qui s'apprêtent à boire à ce puits. Il y en a un qui dit à l'autre, mais attention, en fait, ce puits-là, il est peut-être bien empoisonné parce qu'il y a quelque temps, on y a jeté des créatures magiques pour les supprimer et l'eau, elle serait bien empoisonnée. Et donc l'autre lui répond, ce n'est que de l'eau. Les légendes mentent sûrement. Alors, qu'en est-il du légendaire, de ces légendes? Est-ce qu'elles mentent? Quelle est leur place?
Qu'est-ce qui fait qu'une légende est une légende? Est-ce qu'une légende a un fond de vérité? C'est une question qui peut se poser, et qui se pose d'ailleurs dans Rénuit. Mais du coup, ce caractère, cette essence de légende, ce qui fait qu'elle est légendaire, en fait, c'est qu'elle va sublimer le réel. Donc ce puits, en fait, il est tout à fait ordinaire, c'est un puits, hein, c'est un trou creusé avec de l'eau au fond, dont on ne voit pas le fond d'ailleurs. Mais si on voyait le fond, peut-être qu'on saurait s'il est empoisonné ou pas. Mais on n'ose pas. C'est les sentiments, toutes les appréhensions qu'on peut avoir sur toute la superstition qu'on porte, qui crée la légende. Donc ce qui fait la quiddité de la légende, ce qui l'a fait elle-même, c'est l'attention qu'on lui porte, c'est la valeur qu'on lui donne, et c'est combien on la croit. Du coup, est-ce que... pour l'épisode du puits, c'est très parlant, et d'ailleurs, le dragon aussi, c'est une question, est-ce que on n'a jamais vu de dragon? C'est pas un djinn, c'est un dragon. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que le sultan aurait affabulé? Parce que les pouvoirs qui sont transmis de génération en génération, on ne les voit pas. On ne sait pas ce que c'est. Ok, les sultans sont très forts. Enfin, les sultans de cette lignée sont très très forts. Mais est-ce que c'est vrai? Et cette question de vérité, c'est... est-ce qu'on veut vraiment gratter la véracité d'une légende? Quand je parlais de flemme tout à l'heure, c'est... J'ai pas eu la flemme de ne pas faire de recherche, j'en ai fait pour écrire le roman, mais est-ce que c'était intéressant d'avoir le moindre détail historique? Je ne pense pas. Par contre, je pense que c'était important d'avoir un cadre qui soit vraisemblable, auquel on puisse croire. Parce
que... Oui, tout à fait. Loris Muraille, pour ce qui est de l'imaginaire africain, l'Afrique est aussi une terre de légendes. Est-ce que vous vous en êtes inspiré? Est-ce que vous êtes lecteur de contes, de récits de voyage ou de choses comme ça?
Alors, de récits de voyage, oui, parce que, bon, en fait, c'était pas ma première incursion, ni en Afrique, ni dans l'histoire de l'esclavage. J'ai écrit il y a assez longtemps un roman qui traite, lui, de la véritable histoire notamment ce qu'on appelle les voyages triangulaires, oui, qui partent d'Europe, qui vont en Afrique, qui, vers les Amériques. Et là, je suivais des négriers dans leur recherche d'esclaves dans les terres africaines. Donc, j'avais fait ça déjà il y a très longtemps, dans un roman beaucoup plus littéraire, beaucoup plus adulte. Donc, je suis revenu là-dessus. Quelle était la question ? En fait, comme j'ai tout inversé, les légendes, elles sont plutôt du côté blanc. Donc, on voit dans le village blanc, des anciens qui, le soir, à la veillée, racontent des mythes du pays.
Que vous créez, donc vous créez...
J'en ai raconté un par la bouche d'un conteur local qui évoque un peu, par exemple, la bête du Gévaudan ou des choses comme ça. Vous voyez,
De choses historiques qui voilà, sont avérées.
Mes Africains, eux, sont des gens rationnels. Si vous voulez, je décris un moment quelque chose aussi qui est à peu près la cérémonie de la circoncision. Autrefois, en Afrique, on emmenait les enfants dans la forêt pendant 8 jours où ils allaient affronter les spectres qui pouvaient s'y nicher. C'était une véritable épreuve. Là, tel que je le décris, la cérémonie ressemble à la bar mitzvah d'aujourd'hui, si vous voulez, davantage. Ce sont des Africains évolués pour qui tout ça, c'est surtout prétexte à faire des cadeaux aux enfants. Ils sont devenus comme des gens... Je ne sais pas si c'est ça l'évolution, mais ils ressemblent à ce que nous sommes devenus. Tandis que le blanc, lui, c'est confiné dans ces images, par exemple, d'une Europe perdue, donc légendaire.
Est-ce que c'est pas un peu triste, finalement, que les Africains évoluent de notre façon
Mais j'ai pas voulu faire la leçon. J'ai pas voulu dire que les blancs sont les méchants, les noirs, les gentils, etc. Ce que je veux montrer par ce roman-là, c'est que ce qui fait... l'homme, c'est pas la couleur de la peau, c'est la puissance, ce qui rend les uns impitoyables, ce qui rend les uns conquérants, comme au Vietnam, c'est ceux qui détiennent le pouvoir. Donc les Africains, tels que je les montre, qui détiennent le pouvoir, valent pas mieux que les blancs de notre histoire officielle. J'aurais trahi mon idée si j'avais fait ça autrement. Et comme il y en a eu chez nous, je montre aussi des Africains éclairés, qui ont une vision plus large et qui ne pensent pas forcément que les Blancs puent, que les Blancs sont paresseux, que les Blancs sont voleurs, que les Blancs sont... Voilà. Voilà.
Jérôme Noirès, qu'est-ce que vous faites, vous, de l'imaginaire japonais? Parce qu'on se dit, ça va être un peu de la fantaisie, on va avoir des dragons, tout ça. Qu'est-ce que vous faites de tout ça?
Non, juste avant, j'ai envie de poser une question à Loris. Le blues, alors, il devient quoi?
C'est une victime collatérale.
Non, mais il y a un blues blanc, c'est ça ma question dans ton... Ça me travaille depuis tout à l'heure.
Il chante, ça doit ressembler un peu à du Hugo Frey, mais bon.
D'accord. Très bien. Ouais, finalement, il y a du bon quand même dans notre réalité. Oui, mais on a les mêmes points, c'est amusant, tu parlais des fantômes, etc. On a les mêmes points d'appui, les mêmes points d'accès. Idem, quoi. C'est-à-dire le légendaire, c'est le truc, et le culinaire, et le légendaire, c'est ce qui produit l'universel. Alors ça marche très bien, et particulièrement avec les histoires de fantômes, qui ont des universels, le mythe du puits. Est absolument un universel, le pont. Il y a des figures comme ça qui sont des espèces de constantes. Alors le culinaire au Japon, c'est le faux ami, par contre, parce que la cuisine japonaise qu'on pratique et qu'on connaît n'a rien à voir avec la cuisine du est aussi différente que la cuisine pour nous, la cuisine du XIIIe siècle et la cuisine actuelle. Il y a moins de conservation, je pense, de la tradition culinaire au Japon, mais le fantastique au moins potentiel, puisque c'est pas de la fantasy, il y a de l'étrangeté, quoi, voilà. Et puis les Japonais ont une grande tradition d'étrangeté. C'est les mêmes passerelles, c'est-à-dire qu'il y a un même mouvement. Je pense qu'il y a les mêmes contes. Tu disais que l'origine était indienne. Et le corpus, disons, les légendaires japonais et indo-chinois, indien et chinois. Et par contre, il y a une gestion du temps qui est incroyablement différente, parce que les mille et une nuits, le fait même qu'il y ait mille et une nuits, il y a un écoulement temporel qui est un écoulement à l'occidental en définitive. Alors cet écoulement-là, par contre, dans la culture, je ne sais pas, dans la culture vietnamienne, dans la culture japonaise, elle n'existe pas. Ce n'est pas un temps linéaire. Donc on ne pourrait pas imaginer cette rythmique-là dans la... Dans ces récits. Il n'y a pas besoin de fil. Par exemple, il y a ces grands recueils qui datent de la pénétration du bouddhisme au Japon. Ils n'ont pas besoin de fil conducteur comme l'est Scheherazade. C'est des successions, des espèces de recueils de contes chinois et indiens. Je ne sais pas du tout si ça répond à ta question initiale, vu que je l'ai complètement oublié en fait.
Ça va très bien. Tadvan Tranut, est-ce que donc vous nous avez parlé de cette présence du surnaturel en fait dans vos romans et dans la vie quotidienne des gens à cette époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que cette part, on va dire d'irrationnel plutôt, elle est toujours...
Oui, c'est très vivant. Enfin, le Viet, intrinsèquement, il est superstitieux. Et en fait, mon père, qui a fait des maths, hein, est prof de maths, très logique, il est très très superstitieux, et quoi que je lui dise que tout ça c'est des fadaises, enfin il veut pas me croire, et il prend toujours ses précautions. Donc on ne médit pas tel ou tel génie parce que ils ont une oreille qui traîne, donc et il ne faut pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, voilà, parce que il vaut mieux être better safe than sorry, hein, c'est voilà, c'est ça. Et donc cette intrusion en fait du fantastique dans la vie de tous les jours, mais on le voit tout le temps. Justement dans les fêtes religieuses, on voit les préoccupations qui sont générales, qui vont qui existent non seulement dans la culture viet, mais aussi dans les autres cultures. Par exemple, la recherche de l'immortalité. Dans la fête de des lanternes, en fait, la mi-automne, par exemple, c'est basé là-dessus. Et tout le monde y croit, enfin, plus ou moins, parce qu'on se rassemble et on parle.
Elle existe encore, cette fête?
Ah oui. Tous les 15, le 15e jour du 8e mois, on fête donc la mi-automne, et on célèbre en fait un archer légendaire qui s'appelle Hong Ne en vietnamien et qui s'appelle Hui en chinois. Donc lui, il avait abattu des oiseaux qui avaient écorché la terre, donc c'était devenu un héros, et pour cela, il a reçu des pilules d'immortalité. Seulement, il est devenu très tyrannique, et donc c'est sa femme, Hong Ye, donc qui s'appelle Chang E en chinois, qui avale donc ces pilules d'immortalité. Donc il devient furieux et il essaie de la tuer, mais elle s'échappe et devient la déesse de la lune, parce qu'elle monte vers la lune. Tout en prenant avec elle un lapin. Alors pourquoi un lapin ? Donc toujours est-il qu'elle... Voilà, exactement. Donc on retrouve cette histoire-là dans différentes cultures. Et donc ça explique aujourd'hui pourquoi les missions lunaires chinoises, les récentes, elles s'appellent Chang'e, Chang'e 1, Chang'e 2, parce que c'est... Voilà. Et voilà. Et le petit rover, la machine, là, voilà, elle s'appelle U2, hein, pas pour le groupe de Bono, hein, mais parce que U2, ça veut dire lapin de jade, hein, en chinois. Donc on voit vraiment cette existence, en fait, très, très forte, en fait, des traditions, des légendes dans la vie de tous les jours et même dans la technologie, hein.
Moi, il se trouve que j'ai lu la plupart de ces livres, que je ne saurais trop vous engager à lire vous-même. c'est juste formidable. Et il y a quelque chose qui plane sur tout ça, qui a priori n'a pas l'air très vietnamien, parce que c'est exactement ce que nous appelons l'esprit gaulois. Et je me demande si ça vient de toi, ou si ça vient de ce que tu as compris de ta propre civilisation. Esprit gaulois, y compris avec une pointe de vulgarité.
Ah, tu vois ce que grivois, je veux dire ? Tu veux dire.
Oui, peu. C'est l'esprit gaulois, c'est ça,
oh,
la grivoiserie.
Oui,
la...
Ah, oui, oui, oui.
Ça y va même assez sec.
Oui.
Et est-ce que c'est très typiquement vietnamien ou est-ce que c'est un apport personnel ?
Non, c'est viet.
D'accord.
Non, je...
Donc en fait, il y a un lien historique entre eux et nous.
Oui, mais
c'est... C'est asiatique.
Oui. Ça peut être très cru, mais
c'est
bon.
C'est pas le même au Japon. C'est pas le même forcément au Japon. C'est vrai que le japonais est très vulgaire souvent, mais.
C'est je pense, exactement le même. Mais il y a des vernis culturels qui brouillent un peu, mais c'est la même grivoiserie. On la retrouve dans toute la culture asiatique, dans la littérature chinoise d'épouvante, par exemple, ouais. Qui est la première littérature vraiment qu'on peut qualifier d'épouvante. Hein. Ce sont les Chinois les premiers à écrire des récits d'horreur, d'épouvante. On a des tonnes d'histoires de fantômes violeurs, de fantômes qui viennent déféquer sur les gens, etc. Et tu retrouves toutes ces figures dans la culture japonaise, et donc j'imagine dans la culture vietnamienne.
Et dans vos deux romans, enfin, séries, pour vous, il y a une grande place donnée à l'humour aussi. On rit tout le temps quand on lit vos romans.
C'est ma version aussi de... Enfin, c'est comme ça que je vois un peu l'écriture. Enfin, c'est un jeu perpétuel. Donc, moi, je n'arrête pas de jouer avec le lecteur, de l'emmener dans les fausses pistes. Et justement, dans les scènes un peu grivoises, où il croit que c'est vraiment très grivois, très sexuel, et ce n'est pas du tout ça. Enfin, c'est l'emmener dans ces recoins-là qui m'intéressent. Et je pense que c'est pareil avec toi, enfin, non ?
Alors, moi, je suis à 100% d'accord. Et c'est pour ça aussi que j'aime... il s'avère que j'ai posé mon regard sur la culture japonaise, mais que j'aime les cultures asiatiques de manière générale. Il y a cette qualité-là, alors là, qui est justement, qui nous est exotique, qui est cette capacité à faire se rejoindre des contraires. L'extrêmement raffiné, l'extrêmement vulgaire, l'extrêmement beau, l'extrêmement propre et l'extrêmement sale. Et ça, ça nous est en tout cas devenu inconnu, parce que je pense qu'il y a eu des moments où aussi on avait cette culture-là. Et moi, c'est quelque chose dont je raffole, vraiment.
Parce que, par exemple, dans votre série, il y a le fameux marteau, là, oui. Qui revient tout le temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marteau, alors, ça, de sagesse
Oui, alors donc, il y a un personnage qui est une sorte d'enquêteur qui n'est pas il n'est pas trop anachronique, c'est pas une espèce de Sherlock Holmes du 15e siècle, mais bon, il a une posture comme ça, un peu d'enquêteur. Et alors, lui, son mode de réflexion consiste à se taper le crâne avec un marteau et éventuellement à taper sur le crâne de ses hommes, de ses suivants. Et il y a un double sens, quoi, à ce marteau. Ça vient d'un élément de la tradition zen, hein, où quand on fait le zazen, donc la méditation face au mur, à la fois pour alors la version policée, c'est pour activer certaines énergies du corps, c'est aussi pour réveiller le gars qui est en train de quand même de sombrer dans la narcose à regarder le mur depuis 3 heures. Il y a une sorte de bâton dont on donne un coup assez vigoureux, hein, quand même, ici. Et il y a une deuxième origine qui, là, pour le coup, est grivoise, mais qui est uniquement pour connaisseurs. C'est une référence directe à... j'adore le cinéma des années 70, le cinéma japonais des années 70, qui fait ce lien magnifiquement entre qui est baroque, quoi, finalement. C'est le terme qui pourrait convenir le mieux. Et il y a un personnage récurrent d'une série de films assez peu connus en France, qui s'appelle Hanzo, qui est un enquêteur à l'époque Edo, et lui, son instrument de travail, en fait, c'est son braquemar. Et parmi les méthodes d'entraînement qu'il a pour durcir et affirmer cette virilité toute japonaise, Il a un marteau dont il se martèle le braquemar, quoi. En général, ça sert de scène de pré-générique. Et il se le martèle tellement qu'il y a l'empreinte de son sexe dans une bille de bois. Et voilà, c'était un hommage rendu à ce personnage. Mais comme au départ, c'était écrit un peu pour la jeunesse, voilà, j'ai choisi la tête.
Et alors, pourquoi en fait vous avez choisi la jeunesse finalement, le lectorat cible au départ? Alors ça a été réédité en...
Qu'est-ce qu'on en vend plus? Non, parce que c'était plaisant, et puis finalement il y a une génération là pour qui le Japon a une résonance culturelle aisée, croyais-je d'ailleurs, mais pas tant que ça en définitive, pas tant que ça, mais voilà.
Loris Murail, vous aussi vous écrivez tantôt pour la jeunesse, tantôt pour les adultes, celui-là, pourquoi donc cette uchronie, cette dénonciation aussi de l'esclavage, vous l'avez plutôt adressée à un jeune public?
C'est pas parce qu'on choisit la jeunesse que la jeunesse nous choisit, et je pense que ce sont des livres qui sont publiés dans des collections en effet destinées à la jeunesse, mais qui sont davantage compris, lus par des lecteurs plus âgés. On s'en rend bien compte assez vite. Après, c'est accidentel. C'est parce que mes contacts aujourd'hui dans l'édition sont avec ces maisons-là et avec ces personnes-là dans les maisons d'édition. Je pense que j'aurais eu du mal, comme peut-être Jérôme, à faire publier les mêmes textes dans d'autres secteurs. Je ne sais pas, en fait, parce que j'ai un peu perdu le contact avec la littérature blanche, comme on l'appelle parfois, mais il y a une sorte de hiatus. Il faut bien le comprendre, et c'est des livres qui ont du mal à trouver leur cible aussi, parce qu'ils sont trop complexes pour certains, trop littéraires pour d'autres, et ceux qui pourraient les lire ne vont pas forcément aller les trouver là où ils sont, c'est-à-dire dans des collections pour la jeunesse. Donc il y a un petit problème, en fait.
Et il y a une volonté de dénonciation, enfin d'ouvrir les yeux à ce jeune public sur une réalité,
oui,
qui existait. Et...
Je pense qu'il aurait dû trouver effectivement un plus large public jeune, un public qui aurait dû être accompagné aussi peut-être par des enseignants, par des gens comme ça. Je pense que mon but n'était pas, surtout pas, de faire la leçon, mais juste d'inviter à une question, une position toute simple, c'est mets-toi à ma place, comme on dit. Voilà, on inverse tout. Maintenant, regarde ce que ça donne. Et débrouille-toi avec ça. Voilà. C'était ça que je voulais faire. Je ne voulais pas faire une histoire de bon et de méchant.
D'accord. Oui, mais il me reste à vous remercier. On va laisser la place, je crois, à la remise du prix. Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir été attentifs à ce débat. Et à bientôt.